dans le forum avec Tony Marinaro, on se branche à Habs Radio.
11h02, vous écoutez le forum BPM Sport, notre segment Habs Radio avec Denis Gauthier d'RDS. Denis, bonjour.
Bonjour Tony, comment vas-tu aujourd'hui?
Ça va très bien, comment s'est passé à Mont-Tremblant les derniers jours avec mon chum Alex?
Ah, c'était bien, on était content de revoir la famille, les enfants, on a passé du bon temps, des bons repas et du bon vino. Alors tout le monde est heureux.
Caymus, ouais. Caymus, du vino Caymus?
Non? Non, on garde ça pour les fins de semaine, le Caymus.
Le Caymus, hey, je dois dire, là, tu sais, je suis pas quelqu'un qui trippe sur le vin, mais la première fois que j'ai goûté du Caymus, qui était l'an passé, et c'est bon, man.
Est-ce que c'est Georges qui t'a initié?
Hey, non, non, non,
non, c'est pas, non. Parce que Georges est un grand amateur de Caymus. C'est un grand amateur.
Ah oui, hein?
Puis, le special, moi, c'est le celui que j'ai retenu, c'est le Special Selection. C'est comme une coche de plus dans le Caymus.
Ouais, ouais,
moi,
ouais, ouais. Ouais, ouais.
C'est mon favori.
Fantastique.
Alors, c'est ça.
Hey, Raphaël Harvey-Pinard, c'est... hier, il y avait un chandail avec contact, évidemment, dont il s'approche de retour au jeu. On peut dire que s'il va être à Montréal, ça va être sur un quatrième trio pour commencer?
Ben oui, il va commencer tranquillement, mais tu sais, j'ai l'impression qu'on risque de le voir à Laval là, pendant quelques matchs, question de faire une remise en forme, l'envoyer dans un conditioning stint, qu'on appelle en anglais, là, un court séjour pour de remise en forme, mais tu sais, c'est sûr que c'est pas le genre de gars qui va transformer notre organisation, mais la chose que je pense qu'on va peut-être voir de lui, si connaisseur Raphaël Harvey-Pinard va revenir, il va avoir une nouvelle énergie dans la chambre. T'sais, sur la glace, dans le vestiaire, sur le banc, c'est un gars qui a beaucoup de fougue, qui a beaucoup d'énergie, qui a le sourire contagieux. Puis, t'sais, je comprends qu'on a gagné le dernier match, mais c'est pas tous les bobos sont guéris présentement chez le Canadien. Il en ferait de la confiance et de tout ce qui se passe sur la glace pour nous. Alors, c'est le gars qui, t'sais, dès son retour à Montréal, je pense qu'il va amener une nouvelle énergie, il va amener de l'intensité. T'espères que ça devienne contagieux. Parce que, tu sais, un gars comme Gallagher qui le fait tous les jours, c'est très bon, c'est contagieux, mais tu peux pas influencer une équipe au complet. Mais des fois, t'en as deux, t'en as trois. Oups, tout à coup, tu te retrouves avec plus de monde dans le bateau qui mine dans ce domaine-là, puis d'avoir un peu plus d'émotion dans ton jeu. Je pense que ça peut juste faire du bien pour les Canadiens. Parce que plusieurs matchs au cours là, des 7-8 derniers, tu te retrouves avec un manque de confiance, oui, mais un flagrant manque d'émotion par moment. Puis des émotions, des fois qu'on a vu dans les fins de match, c'était plus des émotions négatives, de frustration, on jette les liens, on se bouscule, mais ce que tu veux voir, c'est de l'émotion au niveau du patin, de l'échec avant, d'un deuxième, troisième effort. C'est le genre d'influence qu'Harvey Pinard peut peut-être avoir sur ses coéquipiers.
Dernière victoire du Canadien au Minnesota par la marque de 8-1. Ça s'est passé le 20 mars 2011. Alex avait une question pour moi ce matin, puis moi j'ai dit non Alex, je pense pas que c'est important, mais j'ai dit j'ai jamais joué, donc là Alex t'as la chance de demander la même question à quelqu'un qui a joué.
Ok Denis, le Canadien n'a pas gagné au Minnesota depuis le 11 mars 2011, c'était la saison recrue de Piqué Subban, il y avait eu un tour de chapeau dans ce match-là. Est-ce que comme joueur, c'est le genre de choses qui pour toi peut avoir un impact sur le match? Est-ce que comme joueur, t'en entends parler, par exemple, tu te fais marquer le premier but, là, ça fait « Ah! » Puis c'est plus tough dans un match comme celui-là que tu sais que t'as pas gagné dans cette aréna-là depuis 2011 que si c'est un match normal.
Peut-être pour certains des plus vieux, mais ça n'a pas un impact majeur, je dirais. Surtout dans la condition où la situation du Canadien est présentement, le focus doit être seulement sur la première période. Aussi simple que ça. Tu veux pas aller trop loin, tu veux pas voir les résultats, tu veux pas voir l'allure du match, tu veux juste voir, regarde, est-ce qu'on est capable de se préparer et être dans une période, être égal ou mieux après une période de jeu, puis gagner tes petites batailles de ce côté-là, tu vas avoir la grande image. Puis pourtant, la même chose, c'est que la plupart des joueurs n'en ont rien à cirer. Ça fait 13-14 ans qu'on n'a pas gagné au Minnesota. Il était même pas là. Ben, ces gars-là jouaient encore à Pee-Wee Bantam la dernière fois que le Canadien a gagné là-bas. Fait que, tu sais, c'est... Je pense pas que ça a un impact sur comment on attaque le match, comment on approche le match dans la philosophie. Puis si jamais on se faisait marquer le premier but, c'est pas OK, là, ça fait 15 ans, on n'a pas gagné ici, c'est fini, ça n'arrivera pas. Je pense qu'on a d'autres choses à fouetter, puis ça n'aura aucun impact. Si ça va pas bien, c'est pas parce qu'on est dans une léthargie, d'une grande léthargie au Minnesota.
Denis, le fait que le dernier match, le Canadien, ils ont mis Matheson à droite et Gouli à gauche. Gauley a passé, il a joué tous les matchs cette saison avant le dernier match, là, à droite. L'an passé, ouais. Il a joué tous les matchs à droite. Et là, finalement, ils se sont dit, tu sais, Gauley est plus confortable à gauche. C'est lui qui est le plus jeune. C'est lui qui est le futur du club. Malheureusement, c'est pas Matheson. Si on va investir dans Gauley, on va investir du côté gauche. Et bon, quand tu vois quelque chose de même, qu'est-ce que tu penses qu'à un moment donné, ils se sont dit non, on doit mettre Matheson à droite? C'est parce que tu penses-tu qu'ils préparent peut-être une éventuelle transaction de Matheson? Ou est-ce que tu penses qu'ils préparent peut-être une éventuelle transaction de Savard, dont là, ils veulent mettre Matheson à droite parce que c'est Matheson qui va jouer à droite pour les prochaines deux saisons?
C'est impossible à savoir de l'extérieur. À moins d'être dans les réunions, à moins d'être dans le secret des dieux avec l'organisation du Canadien, tu sais, à la. De loin, quand tu prends du recul, tu regardes ça. Évidemment, parmi tous les gauchers, c'est Gauley qui était le plus apte à jouer à droite, qui avait les meilleures habiletés, qui était le plus confortable, qui était le moins intimidé de jouer à droite. C'est là qu'on l'a mis, c'est là qu'il jouait. Puis il jouait bien. Ça, c'est pour moi, c'est pas un problème. Là, tu te regardes, tu te mets à penser là, le big picture, tu sais, le gros plan du futur du Canadien. Est-ce que Gauley sera un joueur qui va jouer à droite? Probablement pas. C'est, on va sûrement essayer de trouver des droitiers pour jouer sur une première paire, puis d'être capable de le compléter dans cette situation-là. Puis la léthargie que le Canadien connaît, mais surtout que Matheson connaît. Alors, ça part de points, ça, j'ai pas de problème. C'est pas sûr que Matheson jouait son meilleur hockey dernièrement non plus. On l'a vu jouer du bien meilleur hockey, beaucoup plus efficace, beaucoup plus dynamique. Surtout beaucoup plus responsable défensivement que dans les saisons précédentes que ce qu'on a vu cette saison jusqu'à présent. Fait que peut-être c'est juste lui donner un nouveau look, une nouvelle situation, penser à autre chose, sortir de sa zone de confort. Puis des fois, quand tu fais ça à certains joueurs, ça les amène à être un petit peu plus concentrés, un petit peu plus focus sur des choses différentes, sur la base, sur le système, sur des choses que toi, tu dois exécuter. Fait peut-être qu'on voulait juste changer le mal de place. Et tout simplement, peut-être aussi qu'on s'est dit, regarde, on s'acharne sur quelque chose peut-être qui fait pas de différence. Puis, tu sais, à long terme, c'est Gauley qui va être à gauche. Donc, on veut l'ancrer là le plus rapidement possible, l'habituer à cette situation-là. Donc, tu sais, pour moi, à l'extérieur, il peut y avoir plusieurs réponses qui sont à l'origine de cette décision-là. Je suis pas sûr que ça a été concluant dans la victoire de 7-5. On a vu des erreurs de communication, de positionnement, des mélanges un peu dans ces situations-là. Est-ce que c'est dû à ça? Je le sais pas. Est-ce que c'est juste la nouveauté puis qu'on a besoin de temps pour s'adapter puis vraiment s'ancrer dans cette position-là, sur ce côté-là? Peut-être que ça sera le cas. J'ai hâte de voir le genre d'alignement qu'on va avoir aujourd'hui. Ça va continuer l'expérience puis voir le genre d'adaptation que ces deux joueurs-là personnellement feront, parce qu'ils ont été cette situation-là était directement responsable d'un début des Sabres de Buffalo. Dans l'info, on se souviendra, on a vu Gauley aller à droite alors que Matheson était déjà là. Est-ce que c'est une mauvaise habitude? Est-ce que c'est une mauvaise décision? Et après ça, on verra comment on va réagir.
On est de retour. Denis, tu sais, j'ai pensé à quelque chose hier. C'est important, on n'a pas parlé beaucoup. Il y a deux ans, repêchage 2022, le Canadien, Kent Hughes a fait son premier gros geste. Hein? C'était la transaction pour Kirby Dach, le soir du repêchage. Il a donné deux choix repêchage aux Blackhawks pour avoir Kirby Dach et il a échangé Romanov aux Islanders, puis c'est un genre d'échange à trois équipes. Ça a fonctionné comme ça. Il a signé Kirby Dach ensuite un contrat de 4 ans. Une semaine plus tard, les Capitals de Washington ont signé un agent libre. Lui aussi, un centre de 6 pieds 3, un ancien troisième choix overall au repêchage aussi, mais 3 ans plus âgé que Kirby Dach. Il s'agissait de Dylan Strome. Dylan Strome, lui, il produit à Washington à un train d'enfer. Avant hier, il y avait 22 points en 14 matchs. Je dois te demander, est-ce que Kent Hughes a fait une erreur en échangeant des choix au repêchage et Romanov aux Islanders pour avoir Kirby Dach quand il aurait peut-être pu avoir Dylan Strome comme agent libre? Il a signé 3,5 millions, hein? 3,5.
Je comprends. Ben, écoute, tu sais, est-ce que Dylan Strome, tu sais, si tu regardes en arrière, il était rendu où dans sa carrière? Commencé, si je ne me trompe pas, à avoir une certaine éclosion, mais plus vieux. Tu sais, est-ce que dans sa tête à lui, est-ce qu'il était juste trop vieux, est-ce qu'il cadrait pas dans ce qu'il cherchait, dans ce qu'il voulait, ou peut-être qu'on a les informations qu'on avait à son sujet, on n'aimait pas une facette de son jeu. Est-ce que c'est son caractère, son identité, son jeu défensif, peu importe. Il y a quelque chose qui fait en sorte qu'on a préféré aller avec un gars comme Kirby Doc. Peut-être qu'on voyait un plafond qui était plus élevé en Doc. C'est tout simplement ça. Mais tu sais, ça a été difficile pour Strom au début de sa carrière, un peu comme Kirby Doc, où tu sais, à Chicago, ça n'a pas nécessairement été de la façon qu'on voulait. L'éclosion a pris un peu plus de temps. L'adaptation à la Ligue nationale, ça a été un peu plus difficile. Fait que tu sais, peut-être qu'on l'aurait eu gratuit, peut-être que ça ne veut pas dire que Dylan Strome voulait venir jouer à Montréal de toute façon, ou aurait voulu venir jouer à Montréal. Ça, c'est facile de jouer le Monday Morning Quarterback dans cette situation-là, puis de regarder une fois que tous les faits sont là, puis de prendre une décision qu'on aurait pu, on aurait dû. C'est peut-être juste pas une possibilité pour le Canadien de le signer à ce moment-là. Peut-être qu'on avait de l'information qu'il voulait pas venir, je sais pas. Mais moi, ce que je sens, ce que je vois, c'est qu'on avait des espoirs très élevés en Kirby Doc, en son potentiel et en son plafond. Ça n'avait pas été réalisé à Chicago, il y avait des difficultés, il y avait certainement des red flags qu'on devait étudier, qu'on devait considérer si les Blackhawks de Chicago étaient prêts à le laisser aller aussi rapidement dans son développement à un si jeune âge, un joueur qui avait tant de potentiel. Mais cela dit, on a pris le temps de réfléchir, d'y penser, puis au fil du temps, tu réalises, une fois que tu regardes là, le documentaire du rebuild là, du Canadien présentement, tu regardes, moi, j'ai vécu un peu le repêchage avec mon fils, c'était le processus des entrevues avec les Canadiens, des discussions que j'ai eues avec certaines personnes de l'organisation avant. Ils sont très méticuleux, ils font leurs recherches, ils posent des questions, ils laissent rien au hasard. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on a fait les mêmes devoirs, puis la même. On était aussi dédié à savoir toutes les informations possibles sur Kirby Doc, à savoir que c'était lui la meilleure décision, c'était un potentiel, et on était prêt à prendre un risque de faire un échange, puis de, tu sais, vivre avec peu importe les choses qu'on savait ou on savait pas sur lui, puis d'essayer de développer, prendre le temps. Puis on avait une des personnes en place, Martin Saint-Louis en tête, qui était là pour aider un Kirby Doc à développer, à maturer, à prendre l'expérience. On était pour être patient avec lui, pour le laisser aller. Fait que, tu sais, je ne veux pas dire qu'on a fait une erreur. Présentement, cette saison, 15 matchs ou 15-16 matchs dans la saison, est-ce que c'est le joueur qu'on pensait avoir? Non. Mais tu sais, si on avait dit ça au camp d'entraînement l'année passée, on aurait dit qu'on frappe. On est en train de frapper un coup de circuit. La balle est juste en train d'éclairer la clôture. Mais tu sais, présentement, c'est pas la même situation.
Au moment qu'on se parle, les trios, évidemment, c'est Suzuki avec Slafkovský et Doc. Si on compare au trio de Suzuki avec Slafkovský et Caulfield, évidemment, c'est deux différents trios. Puis, ils font différentes choses. Selon toi, lequel t'aimes le plus et pourquoi?
En fait, j'aime le potentiel de celui présentement avec Doc et Slavka, ou avec Doc sur le premier trio, Slavkovski. Pourquoi? Parce que j'aime. Le jeu de hockey, tu vas jouer majoritairement ton match à 5 contre 5. J'aime l'effet qu'on a du poids, qu'on a de la grandeur, qu'on a de la force physique sur ce trio-là, mélangé avec du talent. Dans le cas de Caulfield, jouer contre les meilleurs défenseurs adverses, jouer contre les meilleurs défenseurs défensifs, les meilleurs trios défensifs qui sont là pour te limiter, qui sont là pour jouer physique, je trouve que ça le libère. Ça lui donne un peu plus d'espace, un peu plus de temps, jouer contre des deuxièmes trios, deuxièmes duos, qui va lui permettre peut-être d'avoir plus d'occasions à 5 contre 5. Et puis lui, il va l'avoir son anam, de toute façon. Son anam, son bonbon à Caulfield, c'est l'avantage numérique. On l'a vu, ses deux buts dans le dernier match. Peut se positionner, laisse aller son tir, capable d'aller proche du filet et pas nécessairement avoir le même prix à payer qu'à 5 contre 5. Fait que ça, pour moi, si, tu sais, j'aimerais que la chimie prenne sur ce premier trio-là. J'aimerais qu'on gagne une confiance parce qu'à 5 contre 5, ce trio-là, lorsqu'il est acharné, j'ai adoré Slafkovský dans le dernier match. J'ai aimé le jeu de Doc à 5 contre 5. Dans le dernier match, j'en ai parlé mardi, moi, aimé un avantage numérique, mais à 5 contre 5, je l'ai trouvé plus intense, plus acharné, capable de protéger des rondelles, capable d'aller chercher des rondelles dans le fond de territoire. Fait que, si on était capable de trouver une chimie là-dedans, là, Il y a plusieurs qui vont s'ennuyer de Caulfield, Suzuki, là, mais si on produit puis on crée du momentum, puis tu tapes possession en seconde offensive, puis marquer des buts à 5 contre 5, ça va nous donner un grand avantage chez le Canadien de Montréal. Ça va nous trouver une nouvelle profondeur, je pense, qui pourrait nous être bénéficiaire.
OK. Ceci étant dit, si toi, t'es Kent Hughes, est-ce que tu t'en vas chercher un deuxième joueur de centre tout de suite en voyant que t'as dit que t'aimes ça, Suzuki, avec Slavkovski, puis Doc, puis t'essaies de trouver un centre pour Caulfield sur ta deuxième?
Ça dépend toujours du prix. C'est sûr que je suis intéressé d'aller chercher un deuxième joueur de centre, mais est-ce que ça cadre dans le plan? Est-ce que ça cadre dans la vision qu'on voulait à long terme? Puis tu sais, aussi frustrant que ça peut être pour plusieurs partisans d'avoir entendu Ken Hughes cette semaine, dire, regarde, je vais suivre le plan, on n'ira pas faire des gestes qui sont pas, qui ne cadrent pas. Puis c'est décevant parce que là, on est en train d'échapper. On est en train, tu sais, les séries éliminatoires n'étaient pas nécessairement dans la pensée de beaucoup de monde cette saison, mais le mix l'était. Puis on est en train de l'échapper, le mix, présentement, là. Tu sais, avec la série de défaites qu'on a connues. C'est pas terminé. Pour être encore dans le mix plus tard dans la saison, mais là, c'est difficile. Puis on voudrait, tu sais, une solution rapide entre le monde. Puis je comprends très, très bien le l'émotion, la foule des partisans, le côté compétitif. Mais il n'y a pas de raccourci, Tony, pour arriver à tes fins, pour arriver à rebâtir et faire une reconstruction de la bonne façon. Malheureusement, il va juste falloir s'armer de patience et, tu sais, attendre des choses qui arrivent en bon temps. S'il y a une opportunité d'aller chercher un jeune, quand je parle d'un jeune, c'est un, tu sais, pas à mi-vingtaine, qui ne coûtera pas une fortune, qui ne te coûtera pas, tu sais, tu les habilles pas Pierre pour habiller Paul, là, tu ne donnes pas un de tes meilleurs espoirs ailleurs pour aller chercher un deuxième centre que tu ne sais pas ce que tu achètes nécessairement encore parce que tu ne le connais pas comme le gars que tu vas laisser aller. Des fois, le risque est trop élevé, puis c'est la meilleure chose, c'est juste d'attendre. Ça fait de la peine, c'est difficile, mais tu sais, moi, la reconstruction, elle va être longue, puis tu sais, 5 ans, pour moi, c'est le minimum. Pour moi, c'est plus 6-7. Puis, tu sais, en montant. Mais quand ça va être fait, puis tu le fais comme faut, la journée qu'on va être rendu, on va être content, on va se dire ça valait la peine d'attendre. Mais pour l'instant, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont être déçus de ce que Kent Hughes va faire ou ne fera pas, ou du moins d'ici au prochain repêchage de l'été prochain. Mais en attendant, je n'ai pas d'attente d'avoir des joueurs miracles qui viennent nous aider.
Gros défi ce soir, mon Denis?
Énorme défi. C'est une équipe, pour moi, Minnesota, qui joue très, très bien. Pas beaucoup de matchs à domicile. Je pense que c'est juste leur 6e match à domicile. Ils sont 3-1-1. Mais, tu sais, 7 victoires au cours des 10 derniers matchs. C'est une équipe qui va bien, qui est confiante, qui travaille, qui est acharnée, qui a un entraîneur qui aime presser le citron à Minnesota. Donc, ça sera pas un défi facile. Mais tu sais, t'espères retrouver le Canadien de l'année passée qui a viré au défi, qui avait toujours la tendance à nous surprendre dans des moments difficiles. Puis t'espères que ça soit ça. Ce soit ça qui arrive ce soir à 20h.
Bon match, Denis. On va se parler mardi, moi et toi.
Bonne journée, messieurs.
Salut, mon chum. Le voilà, Denis Gauthier d'RDS.